Pas d'affolement. Nous voilà.
Sur Radio Entre deux Mers, dans l'émission Pas d'affolement, nous voilà, sur 98.4 RFM.
Nous sommes en présence de Sylviane, Brigitte, Sarah, Jean-Louis, Guillaume, Christelle, Nathalie et Francis. Ont participé à l'émission Valérie, Philippe, Guélin, Judine, Joseph.
Nous vous présentons notre invité, Eric Garcia, animateur à la Maison des Usagers, à l'hôpital de Cadillac. Il a été interviewé par Guylain.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Pas d'affolement, nous voilà. Aujourd'hui, je suis avec Eric à la Maison des Usagers. Il va vous parler de ce qu'il fait dans la vie et quelle est son action au sein de l'hôpital. Bonjour Eric.
Bonjour Guylain.
Quel est votre métier ?
Alors, à la base, je suis aide-soignant et avant, j'étais cuisinier. Je suis maintenant chargé d'animation au centre hospitalier de Cadillac.
Très bien. Combien de temps avez-vous mis pour faire ce métier, pour vous former en fait ?
Alors, l'animation, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, puisqu'avant de rentrer à l'hôpital, j'étais également animateur de soirée, comme on dit DJ. Et j'ai souvent animé des associations, des soirées, donc j'ai ce sens du public. Et de la relation humaine.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, en priorité, je suis un soignant. Hein, j'ai choisi ce métier puisque je suis quelqu'un d'empathique et j'avais envie d'aider l'autre dans ses moments de détresse et de souffrance, comme on peut le voir à l'hôpital de Cadillac ou dans les hôpitaux psychiatriques en général.
Avez-vous fait beaucoup d'études avant de devenir animateur ?
Non, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Enfin, j'ai un CAP de cuisinier, mon diplôme d'aide-soignant et j'ai une micro-entreprise d'animateur en soirée. Bon, pour l'instant, l'événementiel est un peu par terre. Donc, voilà, je suis chargé d'animation depuis fin juin 2020 à la Maison des Usagers. J'anime en deuxième casquette dans les services et en extra-hospitalier. Et la troisième casquette, je travaille avec le comité de la culture, notamment le Rocher de Palmer ou le Théâtre de Bordeaux.
Intéressant. Que faites-vous en général à la Maison des Usagers ?
Alors en fait, c'est un petit peu particulier parce que normalement, la Maison des Usagers, c'est un lieu qui préconise la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que le patient devienne un usager, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il retrouve un petit peu le contrôle de sa vie. Et normalement, c'est un lieu au milieu de l'hôpital qui ne préconise pas le soin, mais au contraire, la liberté d'expression.
En vivant à l'extérieur, peut-on participer à l'émission ? Est-ce que vous continuez à travailler avec le confinement ?
Alors, je continue à travailler avec le confinement. Actuellement, une situation est un petit peu compliquée au centre hospitalier par rapport au confinement. Une cellule de crise a décrété donc que les patients sont confinés dans leur service toute la journée à raison d'une heure de sortie dans le parc. Donc, j'ai cessé toute activité hors de la Maison des Usagers. J'ai décidé d'ouvrir de 9h à 17h en ouvrant toutes les heures à chacune des unités. Donc c'est un travail un petit peu compliqué, c'est ponctuel, j'espère que ça cessera rapidement. Et donc bien sûr en respectant à chaque fois la distanciation, un nombre maximum de personnes dans le local de la Maison des Usagers et une désinfection de tous les points de contact entre chaque passage.
Oui. Est-ce que vous travaillez dans de bonnes conditions ?
Alors, si travailler dans le milieu soignant en psychiatrie actuellement et travailler dans de bonnes conditions, ben oui, je peux dire que je travaille dans de bonnes conditions.
Qu'aimeriez-vous savoir sur notre émission ?
Alors, ce que j'aimerais savoir, effectivement, si d'abord j'ai découvert Padalphone Mon Voilà, donc quand on m'a convié à l'émission, je suis allé fureter un petit peu ce week-end sur Internet, et j'ai découvert le travail énorme que vous faites auprès des patients, notamment de l'hôpital de Cadillac.
On peut dire que ça vous intéresse, du moins.
Oui, ça m'intéresse.
Combien d'années comptez-vous exercer cette intervention au sein de la maison des usagers ?
Alors, j'ai 55 ans, donc si j'en calcule mon départ à la retraite, je devrais avoir 7 ans d'activité minimum. Il m'était important pour moi de faire une reconversion de soignant à chargé d'animation. J'espère, pendant ces 7 années qui viennent, là, arriver à établir mon projet, qui est un projet de passerelle, en fait. La maison des usagers existait avant que j'arrive. Elle a été fermée pour des raisons diverses. J'ai décidé de la faire rouvrir en préconisant un projet de passerelle, parce que je pense que seul on ne peut rien faire et qu'ensemble on peut tout. Et donc la passerelle, elle commence déjà dans la prise en charge du soignant, dans le service. Ensuite, c'est les ergothérapeutes, donc il faut un travail formidable. Ensuite, donc, j'arrive en scène avec un travail de projet auprès des usagers. J'ai établi ici un cybercafé, il y a du café, il y a des rencontres, il y a des livres, il y a de la musique. Et donc, quand le patient vient ici, je le sors un petit peu de l'univers soignant où il était confiné. Et ensuite, quand tout ce confinement sera terminé, je l'espère bientôt, je le dirige, quand il va sortir, sur les GEM, les SAS, hors de Cadillac. Et ensuite, pourquoi pas, j'ai aussi des passerelles avec des missions locales.
Ok, très bien. Bon, bien, écoutez, c'est très intéressant ce que vous nous avez relaté là. En fait, toute l'équipe vous remercie pour votre intervention, pour avoir accepté de parler de vous, monsieur Eric. On vous souhaite bon courage. Allez, au revoir, Eric.
Et je vous souhaite aussi bon courage et je suis très content que vous ayez pu venir m'interviewer. Je remercie particulièrement Guylain qui est en face de moi. Merci beaucoup, Guylain.
Il n'y a pas de quoi, c'est naturel.
Et maintenant, on va écouter un texte de Philippe sur Napoléon.
Ma chronique historique concerne Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte fut l'un des souverains les plus marquants de l'histoire de France. Homme d'État, il crée des institutions qui existent toujours aujourd'hui. Homme de guerre, il élargit les frontières de l'Empire. Napoléon voit le jour à Ajaccio le 15 avril 1769, fils de Jacques-Marie Bonaparte et Maria Laetitia Rosmalino. À Ajaccio, Napoléon fréquente l'école de l'abbé Rocco. Le 17 décembre 1778, il s'embarque avec sa famille en France. À son arrivée, il entre avec son frère au collège d'Autun. À partir du 1er mai 1779, Napoléon fréquente l'école militaire de Brienne. Le 17 avril, il est lieutenant-colonel. En 1793, devant Toulon occupé par les Anglais, il manœuvre avec une telle adresse qu'il décroche le titre de général de brigade. Après avoir épousé le 9 mars 1796 Joséphine de Beauharnais, Bonaparte devient général en chef de l'armée d'Italie. Les Autrichiens sont battus à Arcole et de nouveau à Rivoli. Le 23 février 1798, Napoléon obtient le commandement suprême de l'expédition d'Égypte. Quelques mois plus tard, il rencontre ce directeur par le coup d'État du 18 Brumaire. En 1802, Bonaparte se fait élire consul à vie. Le 18 mai 1804, il devient Napoléon Ier, empereur des Français. En décembre 1805, c'est la victoire d'Austerlitz sur les Autrichiens, puis Eylau sur les Russes. En 1809, Napoléon décide de divorcer et se marie avec la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise. En 1811, l'Empire français, qui compte 44 millions d'habitants, s'étend de Hambourg à Rome et de la Vistule à Gibraltar. En juin 1812, Napoléon se lance dans la campagne des Russies qui se révélera un désastre. Les erreurs stratégiques militaires qu'il va commettre à Waterloo en juin 1815 sonneront la fin de son règne. Les Anglais le déportent à Sainte-Hélène. Atteint d'un cancer de l'estomac, il rend le dernier soupir le 5 mai 1821.
Eh bien, on va remercier Philippe. Par contre, les amis, ça serait bien de lui passer un petit coucou, non, à notre ami Philippe. Parce qu'on va rappeler qu'en cette période de Covid, le groupe est un peu scindé en deux. Donc Philippe ne peut pas être avec nous en ce moment.
Moi, j'ai pensé à la fin. Enfin, pourquoi à la fin?
À la fin? Oui, bah, on va faire un petit coucou maintenant aussi.
Ouais. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Et maintenant, on va vous diffuser le texte de Valérie, Le miroir des allumettes, qui est lu par Béatrice, suivi d'un poème de Philippe.
Le miroir des allumettes. Ce jeu de lumière et de silence continuel se joue d'une partition de musique, scandant ma vie de ce grincement en violence et en me jetant ses mesures agressives, comme il étale les travers de ma vie. Cette musique, née de la folie, explose en moi comme un trop-plein qui se déverse, comme une avalanche, arrachant tout sur son chemin. J'ai beau me débattre, je perds encore plus pied. C'est une dégringolade brutale, un fond glacé et obscur, où je ne sais plus réfléchir. Il dévore mes humeurs, mes amours, mes passions. C'est un assassin imprévisible. Il connaît sa proie. Il la veut soumise. Cette musique m'emporte et je survis en chant sans retrouver la paix. Je recherche une joie, une gaieté de bien-être, mais je n'y arrive plus. Je sombre. La porte du bonheur m'est fermée. Je suis seule. À vouloir la lumière, je me suis brûlée. Ces brins d'allumettes qui fascinent l'esprit, peut-elle réchauffer quand elle brûle en moins d'une minute? Les chemins de la vie sont faits de fleurs fanées qui ne renaîtront plus cet hiver. Des bois morts, tous taillés, nous feront penser que le froid est rude. Pour certains, il n'y aura pas de fleurs. Pour d'autres, comme moi, ce sera un hiver gelé où il n'y aura aucun repère. Mais pour beaucoup, le monde aura changé sans comprendre que le bonheur n'existe pas pour tous. Pour que vous nous voyez dans votre solitude, soucieux de ne pas vous déranger, je ne vois aucune oraison à vous chanter. Dans le monde moderne, personne ne voit plus personne, comme il est réellement. Dans cette période, attentats et des morts laissés par le virus actuel, c'est la panique. De tout ça, augmente le mal-être général, et l'on s'enferme en nous, même encore plus démunis qu'avant. Un jour, on a changé. Le miroir du passé s'est fait le miroir des feux follets. Quoi que l'on fasse, il nous défigure. Il nous rend laid. Il nous renvoie à l'image insipide, sans qu'on s'y retrouve. Le monde est triste. Il lui manque une fenêtre de lumière où l'on pourrait se retrouver, se ressourcer, comme devant un feu de bois. Le charme des séraphins ne parviendront jamais à notre oreille pour jouer la musique qu'il y a en notre être. Nous avons tous besoin de sortir la tête de l'eau. Les allumettes ne réchauffent pas les cœurs. Le miroir se dégrade. Nous plongeons dans la perte de nous-mêmes. Se redresser lorsqu'on ne peut même pas évoquer ce qui nous détruit et nous tue de plus en plus. Pour certains, comme moi, il y a le désespoir. Il y a avec lui un monstre rempli de fumée noire. J'ai peur. Je me vois m'enfoncer davantage. En plus, ce monstre a détruit mes idéologies. Chose que je n'accepte pas. Je préfère que les musiques reviennent dans ma tête. Je veux chanter à nouveau et renaître. Les allumettes allumeront des chandelles et moi je chanterai le fond de mon cœur. Ainsi, pleine de musique, je réchapperai à ce miroir grimaçant, emporté par les musiques de mon âme. Prenez la peine, écoutez les musiques de votre cœur. Ne tentez pas le miroir aux allumettes. Prenez le temps. Un séraphin écoute peut-être.
Pas d'affolement. Nous voilà.
Voici mon poème Étoile. Tu brilles là-haut, toi l'étoile, quand la nuit sur le jour jette en voile. Étoile des mers, étoile des neiges, tu scintilles, et en synergie avec tes voisines, tu brilles. Tu es si haut dans le ciel, et combien tu es belle. Étoile, tu me rassures quand tu es là, et la nuit s'en va, ça et là. Elle ne serait rien sans toi, étoile, je n'aime que toi. tu reblandis dans le ciel, et de toi on ne saurait choisir laquelle est la plus belle de toutes.
Et après notre ami Philippe, on va faire un petit coucou à Valérie.
Bonjour Valérie.
Bonjour Valérie.
Bonjour Valérie.
Et
bonjour.
Voilà, donc maintenant c'est à toi, Ossine.
Maintenant on fait une pause musicale avec une chanson proposée par Azidine.
Je suis avec Nino, le petit puni dans le thème. Bébé prend le volant là, je me suis rapta dans le club. Je sais qu'ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Tu veux faire le you, hein, tu veux faire le thème. Mais pas t'as fait la you, il laissera aucune preuve. Ouais, ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Détaillé, redétaillé. Voyez les œuvres là sur le tailleur. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Quand c'est cassé, je peux plus réparer. Détaillé.
Je n'ai plus le cafard dans le féfé araignée. Y'a le Panamera devant la ville à garer. C'est eux qui prennent des snaps, mais c'est moi qui paye. Elle est pleine l'enveloppe, pas besoin de développer. Quoi de la Malaga, Hollanda, oh là là. Mais pourtant crois que je suis cinglé. Ils croient jamais, jamais en nous. Je veux les voir marcher sur les genoux. Je veux les faire regretter, j'ai pas prévu de freiner. Les millions feront des bisous dans le cou, dans le cou. Hein, je suis avec Nino, le petit puni dans le dun. Bébé prend le volant là, je me suis rapta dans le club. Je sais qu'ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Tu veux faire le you, hein, tu veux faire le thug. On a fait la you, on laissera aucune preuve. Ouais, ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler.
Détaillé, redétaillé. Voyez les œuvres là sur le cahier. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Quand c'est cassé, je peux plus réparer. Détaillé.
Madre mia, je voulais des milliers, je ne voulais pas briller, mais je brillais quand même. Et toi tu portes l'œil, parce que ma PhD là, j'ai charbonné pour l'avoir et tu devrais faire de même. Magnum de champagne pour te faire boire, Magnum 357 pour te faire voir. Que nous et eux ça n'a rien à voir, et que tout le monde se cache quand ils se mettent à pleuvoir. À ma gauche j'ai la plus mignonne, 90 des sans silicone. Les yeux rouges j'ai fini le corps. Va dire au boss qu'on a repris la zone. Hein, je suis avec Nino, le petit puni dans le dun. Bébé prend le volant là, je me suis rapta dans le club. Je sais qu'ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Tu veux faire le you, hein, tu veux faire le thug. On a fait la you, on laissera aucune preuve. Ouais, ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler.
Détaillé, redétaillé. Voyez les œuvres là sur le cahier. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Quand c'est cassé, je peux plus réparer. Cassé, je peux plus réparer.
Chers auditeurs, nous sommes sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM. Pas d'affolement, nous voilà. Et voici la deuxième partie de l'interview de notre invité.
Eric, parle-nous de la maison des usagers.
Alors Guylain, la maison des usagers, c'est une grosse histoire. D'abord, c'est une histoire de rencontre. En 2013, il y avait un point café, une espèce de petit kiosque qui se situe au milieu du parc de l'hôpital de Cadillac. En 2013, on a commencé à se rencontrer. Un mercredi par mois pour boire du café, pour boire un café ensemble. Ça a commencé par quelques personnes et petit à petit, les rencontres se sont multipliées autour de ce point café et on a vu venir autres que des soignants, des patients, on a vu venir des membres du service technique, des membres de l'administration. Et puis, petit à petit, ce point café est devenu quelque chose d'incontournable, tant et si bien qu'on a commencé à penser à mettre une structure pour se couvrir, c'est-à-dire un barnum. Et un jour, l'idée saugrenue est venue de construire une maison. Et ça, ça a été une énorme aventure. Il a fallu quand même plusieurs directeurs, je crois 3 directeurs, pour qu'on arrive finalement à ce qu'un jour, il puisse y avoir une somme considérable destinée à monter cette maison des usagers. C'est un projet un peu farfelu au départ pour certains, mais qui pourtant existe dans d'autres structures hospitalières. Donc il a été décidé de la faire au milieu des arbres centenaires, au milieu de marronniers. D'ailleurs, je me prends souvent en automne quelques marrons sur le coin de la tête. Et cette aventure, elle est aussi accompagnée par des participants de divers horizons professionnels. Nous avons psychologues, directeurs, directeurs financiers, agents des services techniques, soignants, etc. etc. Et puis, tout à coup, cette maison des usagers sort du sol, on pourrait dire, voilà, et se retrouve plantée dans le décor au milieu d'un parc, puisqu'un jour, tout est parti du fait qu'un directeur s'est rendu compte que dans ce parc immense, finalement, les gens ne se rencontraient pas, les gens se disaient à peine bonjour. Et l'emplacement de la maison des usagers n'est pas anodine, car si on regarde le sol, on s'aperçoit qu'il y a comme des espèces de chemins de vie, c'est-à-dire c'est là où les patients passent le plus souvent, et à force, ça a fait des espèces de petits chemins. Donc la maison des usagers se retrouve vraiment au milieu, et elle préconise donc cette fameuse démocratie sanitaire qui est une espèce de bouffée de liberté, bouffée d'air pur qu'on essaye de donner à ces patients. Dans le carcan de leur maladie psychiatrique et de leur souffrance vraiment énorme. Et il était préconisé, et donc s'associe aussi à cette maison des usagers, l'association Maison du Parc, et diverses associations qui se greffent autour de cette maison des usagers. Et le principe était de mettre du personnel non soignant. Donc moi, je suis un ancien soignant de plus de 30 ans, J'ai repris cette maison des usagers en gardant les mêmes caractéristiques, mais en y mettant un peu de valeur. Par exemple, je me dis toujours que dans toute liberté, il y a des limites, il y a toujours des cadres. Donc, sans parler de cadre, que je déteste ce mot, je l'ai employé pendant 30 ans et je ne veux plus, je pense plutôt des règles, le vivre ensemble, la tolérance. Ces choses-là que l'on oublie souvent et que les patients ont du mal à instaurer et à suivre dans les services par rapport au fait qu'ils sont quand même en souffrance, agglutinés souvent, ce n'est pas évident pour eux. Ce que j'espère à l'avenir, c'est que j'arriverai à construire des passerelles pour que nous puissions enfin travailler ensemble, tous, parce que notre objectif, mon objectif, à la fin de tout ça, c'est quand même le bien-être du patient. Voilà, je vous remercie.
Bien, on va pouvoir diffuser mon opinion sur le deuxième confinement. Je suis Brigitte, je vous présente mon texte, le reconfinement. Voilà reparti ce confinement à nouveau. Et pour le moment, je supporte bien le confinement parce qu'on s'occupe à la maison. La télé, les perles, la lecture, la musique, le ménage. Et en plus, on ne sort pas trop souvent pour éviter de confiner les gens. Aussi, on voit quand on va en commission comme ça, dans les intermarchés, ben les gens, ils achètent beaucoup dans leur caddie. Des fois, ça déborde. Et après, la personne à côté, elle n'a plus rien. Alors, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, les commerçants, il faudrait qu'ils donnent tant de temps par chariot, ce qu'ils ont seulement besoin. Et on se demande aussi combien de temps pourra-t-il durer. On ne sait pas, mais il faut faire avec. Voilà, et en attendant, les centres commerciaux comme Intermarché, Lidl et Netto sont ouverts, mais rien que dans la nécessité. On voit les badges, je mets sur les jouets, les livres, ce qui n'est pas nécessaire.
Eh bien, hier soir, vous avez eu la réponse à votre question, Brigitte. Hier soir, donc, le président a parlé d'un relâchement, il n'a pas parlé du déconfinement, mais d'un relâchement un petit peu de la ceinture Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Louis? Comment tu as vécu, toi, ce reconfinement?
Eh bien, j'ai vécu le confinement. C'est dur de rester tout le temps à la maison. On peut sortir qu'une heure. C'est dur, mais en espérant que ça arrête le Covid.
D'accord. Et toi, Ossine?
Moi, je veux dire, confinement, c'est difficile. C'est très dur par rapport au premier Covid. Maintenant, on attend que le président ne parle pas de deuxième confinement. Je souhaite que ça dure moins longtemps que prévu.
Oui, mais enfin, il a parlé, ça y est, c'est fait. Donc, il a desserré un petit peu. Et vous, Sylviane, comment vous l'avez vécu, vous, ce reconfinement?
Eh bien, moi, je l'ai vécu très mal. Je le vis très mal, le confinement. Mais bon, j'ai entendu le président parler, donc je vais pouvoir reprendre un peu mes activités. Ça veut dire faire la marche le matin, aller un peu où j'aime, faire mes sorties, aller faire les magasins, reprendre un peu le goût de la vie.
D'accord, très bien. Eh bien, on va poser la question également autour de la table. Là, une jeune stagiaire, Sarah.
Bonjour, ouais. Sarah.
Bonjour. Pour ma part, je l'ai très bien vécu. Voilà. Les cours étaient en visio, donc il a fallu un temps d'adaptation. Mais sinon, pour le stage, voilà, je l'ai très bien vécu. Ça ne m'a pas empêché de faire mon stage, donc je suis satisfaite.
Et une des fidèles de l'émission, Christelle?
Alors moi, je trouve ça très compliqué, parce qu'en fait, je trouve qu'on nous prive de pas mal de liberté, et aussi du fait de pouvoir voir sa famille, ses amis. Puis je vois aussi l'impact que ça peut avoir sur les personnes hospitalisées. Et je vois à quel point ça peut être compliqué de rester confiné dans des services d'hospitalisation. Mais bon, de mon côté, j'ai eu de la chance parce que nous, quand on est propriétaire de chevaux, comme c'est mon cas, on a eu le droit d'aller voir nos chevaux cette fois-ci, contrairement à la première fois.
Et ça relaxe.
Et ça relaxe, entre autres.
Et le pionnier de la radio, un des pionniers, Guillaume.
Oui.
Alors Guillaume, toi, comment tu vois ça? Tu vis ça?
Ça dépend comment on le voit, effectivement. À titre privé et personnel, je le vis comme tout le monde, c'est-à-dire je fais avec nos interdits et nos droits, on va dire, et j'essaie de respecter au mieux la réglementation. Bon, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je peux profiter de l'extérieur chez moi, à mon domicile. Donc c'est un peu moins contraignant probablement que les personnes qui vivent en appartement et qui ont moins de possibilités de sortir. Et là, je rejoins par contre Christelle en termes cette fois-ci professionnels et par rapport à notre travail ici à l'hôpital avec des personnes hospitalisées. C'est que toutes ces personnes-là ont été contraintes, elles aussi, comme nous tous, mais dans des conditions encore, je dirais, pires, parce qu'elles sont contraintes dans un lieu qui est un lieu de soins, qui est un lieu d'obligation de soins pour certaines. Et elles n'ont pas cette opportunité de profiter de leur domicile. Et elles ont été contraintes de rester dans leur unité de façon contraignante, comme on le dit, quoi. Contrainte, contraignante. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur qui soit. Ensuite, malheureusement, on n'a pas le choix. Voilà. Je ne sais pas si on a demandé aussi à Brigitte. Il ne me semble pas. Brigitte, comment vous l'avez-vous vécu? Vous avez donné votre avis dans votre texte, mais autrement, là, maintenant que vous êtes devant nous.
Bien, maintenant, la deuxième partie, ça a fait pareil que la première. Je m'occupe et tout. Et hier, ils ont parlé que les magasins, pour les fêtes, ils vont essayer de les ouvrir et aller dans les familles.
Est-ce que ces attestations, ça ne vous a pas gêné?
Non.
Non?
Non. Il l'a fait presque tous les jours quand on va en course.
On s'en rappellera.
Oui.
Hein? Très bien. Mais écoutez, on va continuer votre émission, pardon. Alors, qui c'est qui est?
Sylviane.
Nous allons écouter Joseph qui nous raconte le mythe du loup-garou.
Bonjour, je m'appelle Joseph. Je vais vous lire une petite légende qui fait un peu frissonner le monde. Légende du loup-garou. Selon la légende, lors des nuits de pleine lune, le loup-garou, ayant d'ordinaire une apparence humaine, se transforme en un loup énorme avec des sens surdéveloppés. ils acquièrent les caractéristiques du loup, puissant, musculaire, agilité, ruse et férocité. Ils chassent et attaquent sans merci ses victimes pour les dévorer. Ne contrôlant plus ses faits et gestes, il peut tuer de nombreuses personnes en une seule nuit. Les gens se sont mis à chasser les loups s'en protégeant avec de l'eau bénite et les tuant avec une balle en argent. Les loups-garous souffraient de la même répulsion que les vampires pour les choses sacrées et étaient considérés comme des créatures du diable. Ils se multipliaient en mordant. La malédiction commençait dès la première pleine lune après la morsure de la victime. Une fois la pleine lune passée, les loups-garous pouvaient conserver quelques caractéristiques animales, telles une modification de leur voix et de leurs yeux, des sourcils se rejoignant au-dessus du nez, des ongles légèrement rougeâtres, le mâchoire un peu plus long, les oreilles implantées un peu plus bas et en arrière de la tête, et de façon générale, un peu plus de poils sur les mains, les pieds et dans le dos. Le loup-garou est un homme vivant, métamorphosé, ou un corps qui sort de la tombe sous la forme d'un loup connu et sous le nom du loup-garou fantôme. On croyait que le corps métamorphosé était celui d'une âme damnée qui ne trouvait pas le repos dans sa tombe. À partir du XVe siècle, les légendes en Scandinavie, en Russie occidentale et en Europe centrale font état de l'existence de filtres magiques pouvant aider les loups-garous à retrouver tout leur aspect humain.
Et comme pour Philippe et Valérie, un petit coucou à notre ami
Joseph. Nous lui faisons un petit coucou.
Bonjour à Joseph.
Bonjour Joseph.
Nous allons écouter Sébastien dans la télépâtisserie qui me propose la recette de cake au raisin.
Je vous présente les gens de la cuisine qui fait des pâtisseries. On va commencer par Sébastien. Sébastien, par exemple, qu'est-ce que vous faites comme gâteau?
Mais je vais faire un carcar aux deux raisins. Bonjour, chers auditeurs, je suis Sébastien et je vous présente une recette pour le 4 heures. Il s'agit d'un carcar aux deux raisins. Pour cela, il vous faut, pour 6 personnes, 3 œufs de 60 g, 140 g de farine, 40 g de fécule, une cuillère à café de levure chimique, 160 g de beurre amolli, 160 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une petite grappe de raisin blanc, environ 125 g, une cuillère à soupe de raisin sec et 5 centilitres de jus d'orange frais. Pour la réalisation, faire préchauffer le four sur thermostat 7, 180 degrés. Prélevez un peu de beurre sur la quantité totale et beurrez un moule à manquer. Placez-le 10 minutes au réfrigérateur. Mélangez une cuillère à soupe de farine et une cuillère à soupe de sucre et saupoudrez l'intérieur du moule. Retournez-le et tapotez le fond pour éliminer l'excédent. Faites tremper les raisins secs dans le jus d'orange. Rincez et séchez les grains de raisins frais. Coupez-les en deux avec la pointe d'un couteau. Retirez les pépins. Dans une jatte, battez 2 minutes le beurre amolli avec le reste du sucre et le sucre vanillé. Incorporez les œufs les uns après les autres. Fouettez jusqu'à ce que la préparation prenne la consistance d'une crème lisse. En mélangeant avec une spatule, incorporez alors le reste de la farine, la fécule, la levure tamisée ensemble, les raisins secs avec le jus d'orange et enfin les grains de raisin. Versez la pâte dans le moule. Enfournez et laissez cuire 10 minutes. Ramenez le thermostat sur 6, 160 degrés. Faire cuire 35 minutes encore. Démoulez le biscuit sur une grille. Servez-le lorsqu'il a complètement refroidi. J'ai apprécié ce gâteau car il est bien moelleux. Je n'en ai laissé qu'un tout petit peu à ma compagne. Bon appétit à tous.
Merci.
Alors, je voudrais remercier Sébastien là, qui nous a mis l'eau à la bouche. Et du coup, je profite de l'émission pour demander peut-être au nom des animateurs de Pas d'affolement, nous voilà, demander à l'atelier pâtisserie si éventuellement on pourrait goûter un de leurs bons gâteaux, peut-être à l'occasion d'une réunion le mercredi.
Ouais. Alors moi, j'adore le chocolat, j'adore aussi le citron, l'orange, mais j'aime pas les crèmes, donc je suis preneur aussi.
Et pourquoi pas, quand j'étais petit, j'étais chef testeur.
Allez-y, Brigitte, vous vouliez dire.
Moi, j'aime bien les crèmes dans les gâteaux.
Ah zut alors. Ben écoutez, s'il y a un gâteau à la crème, moi je vous donne la crème, je prends le gâteau.
Nous allons écouter un hommage à Pascal, un ami du centre de jour qui nous a quittés. Bonjour, je m'appelle Sylviane et je vais vous parler d'un ami. J'ai perdu un ami à qui je tenais beaucoup. C'était une personne très gentille. J'ai fait l'atelier musique avec lui, l'atelier Perlama. Cette personne était adorable. Il disait jamais rien à personne. On a mangé ensemble avec sa maman. C'était un fan de Johnny. Il avait toute la collection de Johnny. On a fêté son anniversaire le 5 octobre avec le centre de jour. Cette personne va me manquer beaucoup. J'espère que là où tu es, tu reposes en paix. Pascal, je t'aimais, Sylviane. Et nous allons écouter Derrière les barreaux de Johnny. Je crois que c'était ta chanson préférée.
Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort, dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Derrière sa fenêtre.
maintenant, on va écouter le groupe PNL qui nous livre une version personnelle de la fameuse fable de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Cette chanson nous est proposée par Guylain.
Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléché lui tint à peu près ce langage.
Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit:
mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage. Sans doute,
le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
C'est le moment de ma chronique moto. Aujourd'hui, je vous parle du Père Noël à moto. Le Père Noël et les motards 2019. Le Trail Bike s'est donné rendez-vous devant l'hôpital des enfants à Bordeaux pour une balade de 40 minutes pour récolter des cadeaux. Il y était 1250 motards. Pour la 9e année, ils ont récolté 1000 cadeaux apportés aux enfants malades. Il y a beaucoup d'émotions. Les enfants hospitalisés étaient heureux de recevoir des cadeaux pendant leur hospitalisation. Associés à ces motards, ils ont même apporté une partie des cadeaux. Des commerçants ont fait des dons pour les enfants. Pour la 10e édition, ils avaient prévu un concert aussi qu'un spectacle. À ce jour, nous ne savons pas si la manifestation va pouvoir être maintenue au vu des complexes sanitaires.
Eh bien, merci Jean-Louis. Jean-Louis, juste à intervenir, parce que j'ai eu l'occasion, moi personnellement, de rencontrer les Pères Noël en moto. Et est-ce que tu en as fait partie, toi, quand tu faisais de la moto?
Non, je n'en ai jamais fait partie.
Et si tu faisais de la moto encore maintenant, tu en ferais partie?
Oui.
C'est une riche idée qu'ils ont de porter des Noëls aux enfants.
Eh bien, c'est très bien.
Et puis, ils sont nombreux. Hein.
Oui.
Ils étaient plus de 120 motos, je crois, à l'hôpital, à la Réole, l'an dernier, quand ils sont venus.
Ah, 120.
Oui.
Oui, il y a du monde. De plus en plus.
C'est bien. Donc, le mois prochain, tu nous feras quelqu'un d'autre?
Oui.
C'est bien, Jean-Louis.
Maintenant, je dois ranger 14. Aujourd'hui, on rend hommage à Christophe Domicile, qui est un grand sportif, l'équipe de France. Voilà maintenant un résultat. Stade français a battu Bordeaux-Bègles 26-16. Match Montpellier 4 a été reporté. Bayonne a gagné contre Toulon 35-29. La Rochelle a battu contre Racing 9-6. Il manque Toulouse clairement, il n'était pas joué.
Et pour finir, la page sportive, écoutons Philippe qui parle du sport en 1991.
Ma chronique sportive concerne l'année 1991. Sur le plan actualité, L'année est marquée par la loi Evin sur le tabac, mais aussi le décès de Serge Gainsbourg. Enfin, cette année voit la création du jeu Le Millionnaire. Côté sportif, l'année s'ouvre avec la Coupe du Monde de rugby qui se passe en France et en Grande-Bretagne et voit la victoire de l'Australie emmenée par le meilleur joueur du monde, David Campese. En football, l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe des Clubs Champions rate le coche et doit s'incliner au tir au but face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Par cette performance, Jean-Pierre Papin sera désigné à la fin de l'année Ballon d'Or France Football, succédant ainsi à Coppa et Platini. Au championnat du monde d'athlétisme à Tokyo, Marie-José Pérec survole le 400 mètres femmes. En sport automobile, c'est le sacre de Ayrton Senna. Les Français ne sont pas en reste, puisqu'emmenés par leur capitaine Yannick Noah, ils gagnent à la Coupe Davis, succédant ainsi aux mousquetaires. Pour finir, cette année voit la naissance du footballeur Antoine Griezmann.
Pas d'affolement. Nous voilà.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons au mois prochain. Au revoir et au mois prochain. Pour une nouvelle émission, vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio en post 4. Merci.
Merci. Au mois prochain. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Je vous remercie beaucoup à tous les animateurs qui s'en vont.
Pas d'affolement. Nous voilà. Pas d'affolement.
Nous voilà.
Pas d'affolement. Pas d'affolement.